pass Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As it is possible, Lenny Wilkins leads the four.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time saison 3. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est présent sur Facebook et Instagram, n'hésitez pas à nous y rendre visite. Et par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en streaming sur www.graphite.net. Et même la podcaster pour faire vos tuyas sur potlad.fr, vous tapez Money Time. Alors, on va pas se mentir, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de Money Time, la troisième donc. Messieurs, est-ce qu'on peut parler de Threepeat?
Yes.
Je pense.
Bah oui,
bah ouais, hein.
Let's go.
Back to back le Threepeat. Donc nouvelle rubrique et même nouvelle formule hein, puisque contrairement à une annonce qui avait été faite en fin de saison dernière hein, aux grandes dames du public, occasionnant manifestations, grèves, voire émeutes dans certains villages de la Meuse, Money Time reste bimensuel, fort de son nouvel homme fort pour animer la deuxième émission et d'un staff technique recruté par le MS5. C'est vous les gars. Alors au programme de cette première émission de la saison sobrement intitulée Reprise, l'actu de la balle orange évidemment, nouvelle rubrique La vie des clubs, où on parlera de l'Open de l'Oise, on fera le bilan de la dernière édition avec Buffa. On aura notre rubrique aussi Woman Power, la WNBA, parce que c'est Playoff Time par Marie. Le basket et WAM revient après la première saison et c'est WAM qui va m'en occuper. Et puis en deuxième partie d'émission, un dossier spécial preview de la conférence Est saison NBA 2025-2026 avec Mehdi et Baptiste, nos spécialistes. Et une rubrique aussi toute nouvelle, le basket est un art, aujourd'hui l'honneur des voleurs. Et évidemment, évidemment, un buzzer beater pour terminer sur les franchises de la NBA. Alors, pour animer cette émission, une équipe alliant expérience, fougue, passion et mauvaise foi. Honneur aux filles, avec Marie, ardente défenseuse du basket féminin, exilée à Amiens, d'où elle nous a transmis sa chronique hein, par pigeon voyageur, puisque son père, un daron à l'ancienne, l'a envoyé dans un couvent méditer sur la saison de WNBA. Merci Mehdi. El Presidente, un titre qui normalement conduit en prison. Mais profitant d'une liberté conditionnelle et fort de ses 3 bracelets électroniques, Baptiste est de retour.
Salut tout le monde.
Ça va, tout va bien?
Ça va, tout va bien.
Nickel.
Pas encore en prison.
Ouais, je te rassure.
Tant mieux.
Alors, il sera le nouveau patron de la deuxième émission proposée le troisième mercredi de chaque mois, on le rappelle. Hein, récompensé pour son engagement et sa régularité, plus que pour son talent, clairement. J'ai bien hâte de lui pourrir le timing de ses rubriques. Quand je ne serai plus qu'un simple chroniqueur, Mehdi The Boss est dans la place.
Salut les potos, I'm back.
Et enfin...
Le gars est chaud.
il est chaud patate. Éminence grise de la technique, caution musicale, mais aussi journaliste d'investigation et de contact, notre Élise Lucet, le nouveau maître du temps sur Money Time, un professionnel au milieu des amateurs, Buffa.
Élise Lucet, j'adore toujours tes introductions, je me dis, mais d'où va chercher des références ouais, comme ouais. Ça
c'est les cheveux, ça.
Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. Bah ouais, mais merci de m'accueillir, les gars.
C'est super.
C'est un plaisir de participer.
Très content de t'avoir. C'est super pour cette saison. Voilà. Avoir un staff pareil, c'est vraiment. Ça nous a coûté très, très cher.
Ouais. Ah bah écoute.
Et enfin votre serviteur, homme de foi, homme de goût, bref, homme sweet homme, c'est WAM qui tourne à nouveau la manivelle avec le plus grand des plaisirs. Et parce qu'on a une grosse émission à vous proposer, on part tout de suite sur notre première rubrique avec l'actu de la NBA.
Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
Bon, j'ai dit actu de la NBA, c'est pas actu de la NBA, c'est actu de la balle orange, hein, bien évidemment, vous aurez corrigé par vous-même. Et on commence en disant de qui on ne parlera pas. On ne parlera pas dans cette rubrique, on vous prévient tout de suite, de Jonathan Kuminga, qui a re-signé pour 2 ans aux Warriors. Hein, voilà, tout ça pour ça.
Il a été annoncé partout et finalement, il reste.
Il reste, voilà. Bon, ou il ne jouera pas d'ailleurs, peut-être. Enfin, peut-être pas,
parce qu'il
n'est pas compatible. Bon,
voilà. Il va un peu jouer quand même.
Bon, il va jouer un peu, comme Al Horford qui continue voilà, sa carrière, mais ailleurs, il quitte le bateau celte pour rejoindre la baie de San Francisco. Voilà, Al Horford, on n'en parlera pas non plus, même si on pourra en parler.
Voilà, ça fait... parti un peu au soleil.
Voilà, pour dans cette EHPAD magique.
Et j'ai vu sur LinkedIn que Boston cherchait des intérieurs, du coup.
Ah bah tiens, bizarrement.
Il n'y a plus personne.
Eh ben, on aura l'occasion d'en parler juste après. L'actu de la balle orange, je commence par Fred Van Vliet.
Ouais, pardon. C'est chaud. Hein.
Fred Van Vliet, 3. C'est une information qui n'est pas de toute première fraîcheur, mais il est out pour la saison. Houston, donc, qui avait misé sur un gros recrutement, on rappelle quand même qu'un certain Kevin Durant est arrivé. C'est un gros coup dur.
Ah oui, messieurs. Le très gros coup dur.
Ouais. Ah oui, moi aussi, je pense. Ouais. Ils ont plus de... Alors, il y a Chris... comment il s'appelle
oh, tiens, vous savez comment oui, il y a Shepard, normalement.
Ouais, Shepard qui va prendre la suite.
Pete Shepard.
Mais...
ouais. Qui a pas eu de temps de jeu l'année dernière. Qui n'est pas vraiment un meneur organisateur. Baptiste, t'en penses quoi?
Perdre un meneur comme ça, avant le début de saison, chaud.
Pas bon, hein.
Et c'est ce qu'on disait en play-off, quand Van Vliet va... Houston va et quand il va pas, ça va pas. Ouais. Bon, là, ils ont recruté quand même un mec qui va mettre des points, qui va être revanchard de sa saison à Phoenix.
Ça reste un joueur. C'est...
On a le problème en plus que Durant, clairement, il est à la fin de sa carrière.
Il n'a pas 25
beaucoup d'années à claquer encore au niveau.
Ah, il va encore donner 28 minutes par match et il joue avec Çengun. On va mettre le ballon à l'intérieur, il va distribuer. S'il va se retrouver tout seul, il va le jouer. Enfin,
bon, en tout cas,
je suis pas trop inquiet avec l'effectif de Houston, je suis pas trop.
Avec Van Vliet quand même, c'était quand même un sérieux contender. Là, ça fait quand même baisser un petit peu les prétentions.
C'était pas un sérieux contender, c'était le contender. C'était...
Voilà, on passe à l'actu suivante, c'est le contrat de Kawhi. Une bourbe à retardement. Je ne sais pas si vous avez suivi, messieurs. Alors là, il parle de théorie du complot. Mais voilà, on soupçonne un gros montage un peu bizarre que n'aurait pas relié notre ancien président, d'ailleurs, à mon avis. Voilà, un montage financier pour lui assurer, en fait, de rester, pour s'assurer qu'il restait bien aux Clippers. Voilà,
c'est du salaire caché, tout
ouais,
simplement. En fait, ils lui ont donné des actions dans une entreprise où le propriétaire des Clippers a des billes aussi, et ils lui ont donné des actions pour 28 millions de dollars.
Voilà. Et puis un traitement un peu spécial aussi, avec des avantages, voilà, dans différents domaines, on ne balancera pas, ce n'est pas notre genre. Mais voilà, clairement, ça pose un problème pour la suite, puisque... je ne sais pas si vous pensez pareil que moi, mais il y a plusieurs contrats qui sont un petit peu dans le collimateur. On se souvient de Brunson, par exemple, quand il a signé à New York. Est-ce que la NBA n'a pas intérêt à taper un gros coup de poing sur la table et de recadrer les choses tout de suite, sachant que les joueurs ont fait un peu la loi la saison dernière?
Kawhi, ce sera facile. Il faut juste attendre qu'il se blesse. Puis après, tu lui mets 3 mois de suspension. De toute façon, c'est le temps qu'il ne joue pas. Donc, on peut y aller, hein.
Ok, alors on termine cette rubrique d'actu, mais par un petit focus quand même sur un événement qui est quand même qui nous a permis, nous, en manque de basket, en tout cas passionnés, de pouvoir vivre une fin d'été plutôt agréable. L'Euro Basket 2025. Ouais. Alors, finale
bon moment,
de rêve.
Ouais,
bon, il n'est pas super concentré.
Si, très belle finale. Même de très belles demi-finales aussi, oui. Mais je t'avoue, la France, je suis déçu, moi.
Bah, on parlait rapidement, mais finale de rêve labellisée Deutsch Qualität.
Hein, je sais pas si c'était une finale de rêve parce que.
Oh, c'est une belle
finale. Pas annoncé, c'était Allemagne Serbie.
C'est ça. Oui. Pas annoncé.
Pas annoncé, mais logique.
Serbie, favori
ultime
à 80% ouais. Avant la compétition.
C'est vrai.
Bon,
c'était une belle finale à regarder.
Turquie, belle surprise.
Oui. C'est ça, ouais.
Très beau basket.
Ça jouait super bien les Turcs.
Et l'Allemagne, c'est pareil. Tout le monde s'est toujours demandé. D'où sortait leur titre de champion du monde. Voilà.
Clairement,
ils l'ont montré. Voilà.
Clairement, ouais.
Vraiment. En tout cas, c'est les deux équipes qui ont fait le plus beau parcours, clairement, je pense.
C'était mérité, je trouve que.
Ouais, c'était mérité. Alors, justement, au passage, la Serbie a déçu. La France, en plein doute. Clairement, voilà. On a pu constater aussi que le basket européen a progressé et devient beaucoup plus homogène parce que des équipes comme la Géorgie, dont on se foutait un petit peu en début
On n'a pas mis une bille dessus. Voilà, finalement.
Ils ont bien fait la chanson.
Ah ouais, puis comme
Non, il y a quelques équipes. Portugal aussi.
Portugal avec Nemasketa. Finlande, Suède.
Très belle équipe, ouais. Finlande.
Ah, et la Finlande, il y a un petit jeune là qui arrive.
Il arrive en Euroleague, là.
Ouais. Et on ne découvre pas que Markkanen. Qu'est-ce que tu fous dans le club où t'es, hein? Quel joueur, c'est incroyable ça.
Ouais. En tout cas, ça fonctionne bien sur le basket européen.
Je peux même pas dire le nom de la franchise parce que ça me.
Ah oh, tranquille, t'embête pas.
Attends, il faut pas se fâcher avec les gens qui écoutent parce qu'il y a peut-être des fans du.
Voilà, c'est ça.
Ils sont cachés en général, mais ils existent. Voilà. Ouais. Alors, on ne sait pas. C'est comme la vie sur Mars, on cherche des preuves. En tout cas, les stars de NBA étaient au rendez-vous et ça nous permet de faire notre transition. On est parti, on a commencé en NBA, on part en Europe et on revient plus localement puisqu'on va zoomer sur un événement qui a eu lieu il y a 15 jours à peu près, si je ne dis pas de bêtises. L'Open Basket Féminin de l'Oise, les 13 et 14 septembre dernier, avec un tournoi... Pardon,
oui, avant ça.
Petite rubrique.
Ouais. Vas-y, finis.
Avant de parler de l'Open de l'Oise, qu'on va vous laisser découvrir juste après, hein, mais juste pour rappeler, il réunissait trois clubs d'élite de la Boulangère en Wonder League, Landerneau, Charleville et Chartres.
Ça te fait toujours kiffer de dire ça, la Boulangère.
Ah ouais,
c'est particulier.
Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Et il y avait aussi un invité avec le club belge de Namur.
Namur, effectivement.
Donc, voilà. Graffiti y était, donc Money Time y était, et on avait dépêché un agent spécial. Donc, on vous fait découvrir un petit peu cet événement juste après. Il y a une petite rubrique de Mehdi que j'avais un peu squeezée.
Voilà, dans la petite nouveauté du jour, on va donner un peu les résultats de nos clubs phares de l'Oise. On va commencer, donc honneur à l'équipe qui joue dans la meilleure division, à Beauvais, qui joue en National 3, qui a déjà joué 3 matchs. Et à ce stade, ils sont 6e avec 2 victoires et 1 défaite. Donc, bon début de championnat.
C'est pas mal, oui.
Ensuite, en Prénat, nous avons un départ parfait pour Gouvieux, 2 victoires en 2 matchs. Crépy, qui a un début mitigé, mais c'est un club où il manque 2 de leurs cadres. Donc, ils sont à 1 victoire et 1 défaite. Début beaucoup plus difficile pour Marny, qui a joué 2 matchs et 2 revers. Ouf. Côté fille, Lacroix réalise un très bon départ avec 2 victoires. Et 2 victoires assez significatives de plus de 20 points.
Quelle division, s'il te plaît, pour Lacroix ?
En Prénat.
Ouais, merci.
Prénat. Comme Compiègne, qui a un bilan de 1 victoire et 1 défaite, et une petite défaite de 4 points, c'est dommage. Parce que
c'est dommage.
Le match.
Ok, merci, tu me tiendras au courant du
Exactement.
Coup, à chaque émission, des résultats et ça permet aussi aux gens qui écoutent dans le coin
on va suivre.
Savoir qu'il y a des équipes qui sont à un bon niveau et qu'il faut encourager. Oui.
Et surtout, si vous avez envie d'aller voir les matchs, n'hésitez pas à aller sur le site de la FFBB où vous retrouvez toutes vos équipes, tous les horaires de match avec les jours et n'hésite pas à aller encourager un peu tout le monde. L'Oise est fort.
Le message est passé. Alors du coup, on enchaîne sur cet Open de l'Oise. On vous laisse découvrir un petit peu donc, l'immersion de Buffa, qu'on remercie vachement.
Toujours un plaisir.
Voilà, qui est parti interviewer. Il l'avait fait l'année dernière déjà, on avait eu des interviews, c'était sympa.
C'était le retour de l'année dernière.
Et il y avait même Anouk.
Toujours Anouk en compagnie d'Anouk, effectivement.
Qui a bien progressé en un an,
génial. Futur journaliste, écoute.
Alors, gros big up aussi à toute l'équipe qui était de graphite qui était sur
c'était
place.
C'était l'équipe principalement qui nous digite, enfin même la Diggers Réunion comme on dit, donc ils ont géré l'ambiance sur place, c'était vraiment très très bien. Mais à défaut de trop parler, on va d'abord écouter donc une première interview, c'est donc deux personnes du comité de l'Oise, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et après, logiquement, si on ne s'est pas trompé dans nos interviews, on aura donc Jessica Mavombou, ancienne joueuse isarienne d'ailleurs.
Super, allez c'est parti.
Money Time, que j'apprécie.
C'est une émission de basket qui s'appelle Money Time.
Un événement de qualité.
Dans Money Time.
On est, on va dire, en direct de l'Open Basket. Open Basket Oise, non ?
Open Oise Féminin.
Open Oise Féminin. Ok, donc là, vous venez d'entendre Antoine. Peux-tu décliner complètement ton identité, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Antoine Lalou. Je suis élu au comité de l'Oise. Et je fais partie du comité d'organisation de cet Open.
Et t'es pas venu tout seul, t'es en compagnie avec, le CT, mais il va mieux expliquer que moi ce qu'est le CT exactement.
Bonjour, Gérard Lelarge. Moi, je suis conseiller technique territorial pour le comité de l'Oise de basket, donc avec diverses missions sur le territoire.
Ben, ça tombe très bien. Enchanté d'abord. Et bien justement, si on doit faire un petit résumé rapide des différentes missions, ça consistera en quoi ?
Bon, la prioritaire, c'est la détection et la formation des jeunes joueurs dans la filière de haut niveau qu'on a sur le territoire. Ensuite, il y a la formation de cadres, donc de tous les entraîneurs sur le département de l'Oise. Et puis là, après, il y a participer à la mise en place de ce type d'événement qui doit favoriser la pratique, le développement de la pratique.
C'est très bien résumé. Et d'ailleurs, toi, Antoine, c'est quoi ton rôle ?
Alors, moi, je suis manager sur le tournoi. Bah, voilà, mon boulot, c'est un peu d'organiser plein de choses, que ce soit au niveau de l'accueil des équipes, que ce soit au niveau des bénévoles, des différents intervenants sur le tournoi, que ce soit voilà, avec Graphite pour la musique, que ce soit Rama qui speakerine là, sur le tournoi. Voilà. Puis après, je me suis occupé de différentes choses dans l'organisation, plutôt tout ce qui est partenariat, les différents sponsors, prendre des contacts, établir des contrats avec les sponsors, voilà.
D'où vient cette idée de vouloir faire un Open dans l'Oise ?
Alors, c'est la 4e édition, en fait.
L'idée, elle est venue de différents horizons. Un, on n'a pas de pratique de haut niveau féminine dans l'Oise, donc c'était amener du haut niveau féminin sur le territoire. Et puis l'entraîneur de Landerneau, là, qui coachait le match juste avant, en fait, est de l'Oise. Donc ça nous a servi de point d'entrée dans le basket pro féminin. C'est grâce à lui qu'on a eu les premières équipes, qu'on a pu monter ce tournoi qui partait de rien. Et voilà comment ça s'est mis en place, en fait.
Donc c'est vraiment un travail de concert entre donc des personnes, on va dire, du comité, donc des personnes, on va dire, dans le fonctionnement, plus des coachs, des joueurs, des joueuses aussi peut-être.
Bah, surtout lui, parce que comme c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, il a été aussi élu au comité, il s'est occupé de la détection des jeunes, etc. Donc c'était vraiment le contact idéal. Lui, d'un autre côté, il cherchait des matchs de préparation. Donc voilà, on a mis tout ça ensemble et on a réussi à faire ce tournoi il y a maintenant 3 ans, la première édition.
Dernière question, l'objectif de ce week-end, ce serait quoi ?
Ah ben, que ça soit une belle fête et mettre en avant le basket féminin, voilà. Après, voilà, c'est déjà pas mal comme objectif.
C'est vrai que c'est déjà pas mal. Ah, Gérard veut rajouter une chose, et ça j'adore.
Mais oui, moi je voulais ajouter qu'on a 4 joueuses de l'Oise qui sont des joueuses professionnelles qui jouent cette année en Ligue féminine, et elles sont là toutes les 4. Donc pour nous, c'est aussi montrer que c'est possible, quoi, qu'on peut être de l'Oise et devenir une joueuse pro. Hein, c'est des joueuses qui sont passées par nos sélections en jeunes, qui ensuite ont suivi la filière. Voilà, et il y en a au moins 2 qui devraient venir demain matin, par exemple, voir nos espoirs actuels, nos moins de 13 ans actuels, pour une fois encore montrer que c'est possible.
Une petite dernière question. Là, ça se passe à Marnier-les-Compiègne, donc à proximité de Compiègne, pour cette année. L'année dernière, c'était le cas aussi. Les années précédentes, c'était le cas aussi ou c'était ailleurs ?
C'est toujours resté dans le Compiénois pour un problème de salle, en fait. Donc on a utilisé la salle de Compiègne et celle de la Croix parce que quand on attaque le monde professionnel, on est obligé de jouer sur du parquet. Et on n'a pas énormément de gymnases avec du parquet dans l'Oise, donc ça nous freine dans le... Ouais, absolument. Voilà.
Ben merci messieurs, une bonne soirée, un bon week-end sur l'Open. Et franchement, bonne continuation à vous. Merci.
Merci à toi. Je t'invite à tout le monde.
Jessica, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Bonjour, alors moi, c'est Jessica, j'ai 25 ans, je suis originaire de Picardie, plus précisément, à Marnier-les-Compiègne, et je suis basketteuse professionnelle.
Ah, et en parlant de basket directement, quel est le quotidien d'une joueuse d'élite comme vous ?
Alors, c'est 2 entraînements de basket par jour, environ 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend, parce que là, on est en préparation. Ça alterne du coup avec de la muscu, des entraînements basket individuels et collectifs, et après avoir une bonne hygiène de vie, voilà.
Et vous avez des sources d'inspiration dans le jeu ?
Vraiment, je vais être honnête, pas du tout. Franchement, moi, je n'ai pas vraiment de source d'inspi. Je joue mon jeu et puis voilà.
Et quel est le plus beau moment de votre carrière ?
Alors, je dirais que c'est quand j'ai remporté la Coupe de France avec Arras Pays d'Artois, quand j'étais en centre de formation en cadette. Donc, ça remonte.
Et elle vous est venue comment, cette passion pour le basket ?
Bah, de base, je n'étais pas du tout destinée à être basketteuse parce que j'ai commencé dans l'athlétisme. Et en fait, j'ai dû arrêter parce que bah, ça devenait compliqué en fait, d'y aller. Et du coup, en fait, c'est avec ma maman. Du coup, c'est ma maman qui m'en avait parlé, qui elle-même en a fait. Et du coup, bah, au fur et à mesure, bah, elle m'en a parlé. J'ai testé et j'ai kiffé.
Et ce n'était pas trop dur de concilier le basket avec les cours ?
Au début, si, parce qu'on est un peu tout seul. Enfin, on est quand même accompagné par nos dirigeants, par nos coachs. Donc au début, de se mettre dans le bain, c'est compliqué. Mais après, ça va. Et puis, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. Ça dépend le parcours que tu veux suivre.
Et ça vous fait quoi de revenir dans l'Oise ?
Franchement, c'était l'un de mes meilleurs week-ends là, depuis un bon moment. J'étais trop contente de revenir. En plus, j'ai pu aller voir...
Oui, il y a eu un problème. Bon, elle était contente de venir en tout cas.
Non, mais on coupe mon travail. C'est...
Ouais, j'ai pas vu, j'avais coupé la fin comme ça.
On était sur la fin, voilà.
Un peu abrupt. Bon, Buffa, du coup, t'as passé un bon moment, c'était chouette, c'était un chouette événement qui a eu
un week-end super, hein, franchement. Du bon sang avec les gars de Diggers, du bon basket. Après, il faut avouer, il y avait des écarts de niveau assez conséquents. C'est là un peu que ça tu te dis, ah, c'est dommage. Mmh. Ça, les enjeux étaient vite placés au niveau des matchs, mais c'est bon niveau de basket, une bonne ambiance. Effectivement, on veut toujours plus de monde de ce genre d'événement, mais il y a quand même du monde répondant. Donc, ouais, non, franchement, super.
Bon, super moment.
Puis d'avoir des joueuses de l'Oise,
merci. C'était bien. Ouais, merci beaucoup. Puis merci à Anouk aussi qui a bien fait le travail.
Très bon travail, Anouk. Bravo. On remet ça l'année prochaine.
Du coup, on enchaîne. Bah, comme on est chez les filles, on va rester chez les filles puisqu'on va parler un peu WNBA avec Marie qui nous a envoyé, donc, comme je le disais tout à l'heure, par Pigeon Voyageur, sa chronique sur la WNBA. Vous savez qu'en ce moment, bah, voilà, depuis même cette nuit, on sait enfin qui sont les deux finalistes. On vous laisse découvrir un petit peu, un petit condensé de la fin de saison, de la saison et puis des récompenses individuelles avec Marie. Allez, c'est parti, je ne me trompe pas cette fois-ci.
Bonsoir à toutes et à tous. On arrive au bout d'une saison WNBA complètement folle et les finales 2025 tiennent toutes leurs promesses. Phoenix, Minnesota, Las Vegas et Indiana sont les quatre équipes encore en lice qui nous offrent un scénario à suspense. Mais avant de parler des finales, un mot sur les récompenses de la saison. Aja Wilson a encore frappé et vient de décrocher son quatrième titre de MVP, ce qui est tout simplement historique. Elle rejoint Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James à être nommés MVP 4 fois avant leurs 30 ans. Paige Bucker a été sacrée rookie de l'année. On l'attendait, mais elle a dépassé toutes les espérances avec son énergie. On peut dire qu'une nouvelle star est née. Naz Hillman de Atlanta a été élue 6e femme de l'année. Alana Smith et Aja Wilson remportent le trophée de co-défenseuse de l'année. Neka Ogwimike de Seattle a remporté le prix de l'esprit sportif pour la 4e fois d'affilée. Et côté banc, c'est Nathalie Nakas des Valkyries qui a été élue coach de l'année. Pour une nouvelle équipe, c'est une performance incroyable. C'est la preuve qu'un projet peut décoller très vite, avec de bonnes personnes aux commandes. Maintenant, revenons-en en play-off. Les Phoenix Mercury, éliminés prématurément l'an dernier, ont pris leur revanche et ont validé leur ticket pour la finale en éliminant les finalistes de l'an dernier, les Minnesota Lynx, qui étaient pourtant favoris, 3 victoires à 1. Mais le plus gros suspense vient de la série entre Las Vegas et Indiana. Las Vegas, qui est une grosse équipe, emmenée par Aja Wilson, MVP de la Ligue, et Indiana, l'équipe miracle. Sans Caitlin Clark, blessée et un effectif réduit, elle continue de renverser les pronostics. Ça rappelle fortement le parcours des Pacers en NBA. Une équipe qui on croyait trop juste, mais qui joue avec le cœur et la solidarité. Et voilà où on en est. 2 partout, avec un match 5 décisif. Phoenix attend avec impatience un adversaire pour la grande finale. Est-ce que ce sera Las Vegas ou Indiana? À mon avis, si Indiana passe, ce sera l'histoire de l'année, qui marquerait cette saison WNBA, vu qu'elles ont aussi remporté la Commissioner's Cup. Et si c'est Las Vegas qui passe, ce sera la confirmation qu'Aja Wilson est bien la meilleure joueuse de sa génération, capable de dominer des deux côtés du terrain. Cependant, il y a quand même eu quelques déceptions. Difficile de ne pas citer Seattle, l'équipe qui visait au minimum une demi-finale, qui s'est complètement effondrée en play-off. Pourtant, Jewell Lloyd a encore fait son job, mais collectivement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Autre déception, New York, championne en titre, qui avait un effectif de rêve et qui sort bien trop tôt. Quand on aligne autant de stars et qu'on ne passe même pas le premier tour, ça laisse un goût amer. Quel qu'en soit le scénario, le basket féminin est plus palpitant que jamais. Rendez-vous le 3 octobre pour des finales qui s'annoncent explosives.
Waouh, super, super chronique de Marie. Vraiment, on lui fait un gros bisou. On espère qu'elle écoute là où elle est, dans son couvent.
On va et passer... la finale, on la connaît.
Alors oui, la finale maintenant, oui. Bah, parle-en, tiens.
C'est Las Vegas qui a gagné le match décisif. Et Indiana, l'histoire se répète parce que leur meilleure joueuse, comme Haliburton chez les garçons, s'est blessée au tout début du match.
Et défaite en prolongation. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment chaud jusqu'au bout.
Ils ont du cœur, ils ont du cœur, c'est bien. C'est bien.
Ouais. Donc du coup, la finale, ce sera donc le Phoenix Mercury contre les Aces de Las Vegas et d'Aja Wilson qui va pouvoir prouver qu'elle est la MVP. On passe à la rubrique suivante. Alors, c'est la rubrique suivante, c'est un petit remake de la première saison, le basket EWAM. C'est l'histoire d'un basketteur lambda que vous allez reconnaître un peu normalement. C'est un peu autobiographique, mais comme ça reprend des choses qui sont un peu communes à tous les basketteurs, vous devriez tous vous y retrouver.
Non, c'est le cartoucheur.
C'est la reprise, c'est la reprise.
Vas-y, fais le son jingle, c'est pas grave.
Ah, non, c'est parti. C'est plus beau avec un jingle, moi, je pense. Toi qui as joué, qui joue au basket, qui jouera au basket, sache qu'il y a une chose par laquelle tout le monde passe et personne ne déroge à la règle. Cette constante du parcours de joueur, où que tu vives en France, en Europe ou dans le monde, porte un prénom effrayant. Bernard. Coach Bernard. Explication sur ce concept universel à la limite de la métaphysique. Alors quand j'avais 14 ou 15 ans, au siècle dernier, c'est flippant de le dire, mais également au millénaire précédent, je jouais au basketball dans le prestigieux club de Montigny-en-Ostrevent, dans le nord de la France. En plein cœur du bassin minier, au milieu des briques rouges, je ne parle pas ici de celles qu'envoient Mehdi, Beffa ou Baptiste le jeudi soir dans la salle rancinante de la Croix. Non, je passais mes mercredis soirs à user mes semelles de Converse, car cette marque était alors respectée pour autre chose que la souffrance pédestre. Enfin, connue, pardon, que pour autre chose que la souffrance pédestre, parce que, il faut le dire, hein, porter une paire de Converse All-Star, c'est faire la part belle aux ampoules et aux pieds qui puent. On est d'accord ? Donc, je passais donc mes soirées sur le revêtement vinyle de la salle Pierre Bachelet, à transpirer sous les ordres incompréhensibles de mon coach, répondant au doux prénom de Bernard. C'est un style de métier aimait tellement la jeunesse que non content de la torturer sur les bancs de l'école, dans ce qui devait ressembler davantage à un goulag qu'à une salle de classe, Bernard avait sans doute décrété un jour qu'il serait bon de prolonger son plaisir sadique dans un gymnase et de poursuivre le travail de sable du ciel gris et des averses du plat pays le mercredi, jour des enfants. Bernard gueulait, on ne savait pas trop pourquoi, mais il gueulait fort et tout le temps. Aujourd'hui, les gosses, les miens en particulier, estiment que je suis toujours en train de gueuler. Mais non, mes chéris, hein, je vous assure, il y a une époque, un temps Dieu merci révolu, où la couleur de tes baskets, la taille de ton short ou la mèche de cheveux qui tombait sur les yeux étaient des prétextes pour te faire pourrir. Alors nous, pré-ados insouciants, on avait cru comprendre que le basket consistait à faire rentrer un ballon dans un arceau en dribblant de temps en temps. Et ben Bernard, lui, il n'en avait rien à carrer de l'arceau, du filet et du reste. Bernard estimait que le basket c'était d'abord et surtout des consignes, ou plutôt des ordres, émanant d'un coach aigri positionné sur le côté du terrain. Bernard ne voulait pas de dribble, pas de shoot, encore moins de panier. Ce qu'il faisait triper, le Bernard, c'était les écrans, les courses sans ballon, les appels stériles, la défense et le marquage. Et si tu prenais une initiative autre, tu entendais gueuler « Et alors, t'es pas en NBA ici ?» Ou bien, t'es pas Michael Jordan? Bien sûr que si, en réalité, on était tous Michael Jordan. Mais si les envies d'envoler, de scoring ou de spectacle traversaient l'esprit, alors Bernard te renvoyait sur le banc avec délectation, en affirmant que tu étais nul et que tes intentions ne te mèneraient nulle part. Et là, il se plaisait, à siffler, à arrêter le jeu, pour développer un système, une tactique que seul lui pouvait comprendre. Il sortait son ardoise, dessinait une cinquantaine de croix reliées par des flèches et plaçait chaque morveux à un endroit mystérieux pour balancer ses instructions. Toi ici, toi là-bas, toi tu passes à celui qui pivote derrière et qui rend au gars qui coupe dans le coin pendant que le mec sur le banc pose un écran pour le type en retard qui met son short au vestiaire, lequel ne prendra d'ailleurs pas part à l'entraînement parce que l'heure c'est l'heure, bordel. Après 20 minutes d'interruption, qui te rappelait le cours d'histoire de 8h à 9h en salle 8 avec Madame Ornée, on remettait la balle en jeu sans plus vraiment savoir qui on était, ce qu'on faisait là et dans quel but. Bernard était content, le salaud. Devant l'absence de spontanéité qui s'était installée et qui n'avait rien à envier à une veillée mortuaire, Bernard souriait, prenait son pied en constatant que nos rêves d'imitation de Jordan étaient bien ensevelis sous les cendres de nos espoirs. Bernard avait du ventre et portait des lunettes. Ses cheveux étaient gras et on imaginait quelque part que le sport, il l'emmerdait. Que de toute façon, lui, il n'y avait jamais goûté et qu'un jour, avec un peu de persévérance et d'abnégation, il finirait aussi par nous en dégoûter. C'était une préparation psychologique intense en réalité. Je ne l'ai compris que bien des années plus tard, en regardant les entraînements de mon fils en train de se faire pourrir par son coach. Un mec devenu sans s'en apercevoir lui aussi, à Bernard. Parce qu'en tout basketteur frustré, il y a un Bernard qui dort. Même en toi, Buffin. L'idée est simple, tester ton amour de la balle orange pour savoir si tu es prêt à tout pour elle. Bien joué, coach Bernard. Mission réussie. Et big up à tous les Bernards. Vous écoutez Money Time sur Graphite 94.9, la meilleure émission artisanale sur le basket réalisée maison avec des produits frais, mais par des mains sales. Alors il est temps de notre coupure musicale, c'est parti. C'était The Black Keys avec Lonely Boy, un morceau qui envoie du pâté. Il est temps de passer à notre petit dossier de cette émission. Les previews de la conférence Est, saison NBA 2025-2026 avec Mehdi et Baptiste. Juste pour introduire un petit peu le sujet, l'Est est un désert. Chaque année, on pointe la faiblesse de cette conférence par rapport à sa jumelle. Mais si la lutte pour une place en play-off a toujours été moins exigeante pour les spots 7 et 8 et les équipes de play-in, ce sera encore plus vrai cette année. Pas vrai, Mehdi ?
Ouais, la fameuse conférence Est. Tu sais, la conférence qui nous a fait rêver dans les années 90.
Ah oui.
Ouais, bah, elle n'existe plus.
Ah bah cette année, là.
Alors moi, j'ai intitulé ça « Conférence Est, victime programmée de la finale NBA
». Oh, c'est méchant.
Ah bah écoute. Bon, avant de donner nos visions sur la saison à venir, qui va finir dans les top 4, top 8 et ainsi de suite, on va déjà faire les revues d'effectifs. Comme on vous avait annoncé en fin d'année, il y a une grosse arrivée chez les Magic d'Orlando avec l'arrivée de Desmond Bane au poste 2-3. Son apport des deux côtés du terrain va être incroyable et j'ai pas de doute qu'il s'intègre parfaitement à cet effectif. Il va être aux côtés de joueurs qui vont lui aller assis et qui vont lui
scier.
Ça va être
là,
mais il est énorme.
Ouais, ouais, c'est pas mal.
Ensuite, arrivée importante aussi des Hawks d'Atlanta. Un pivot qui vient de Boston. De toute façon, à Boston, ils veulent plus de pivot, donc ils ont tous viré.
C'est les soldes.
Voilà, donc tu as le laiton Porzingis qui est arrivé au poste 5 et qui va former un duo avec Trae Young assez explosif. Je pense que sur attaque placée, ça va être assez incroyable. Je mets une petite pièce tout de suite sur le fait que Trae soit le meilleur passeur de la ligue, parce que je pense qu'il va lui donner des caviars à longueur de temps, s'il ne se blesse pas, bien sûr.
Ah bah c'est
parce
la question.
Que sinon, ça va être la grosse question avec Porzingis. Ouais. New York enregistre l'avenue de notre capitaine tricolore Gershon Yabusele au poste 4, venant compléter un effectif assez court, et je pense qu'on le verra pas mal jouer, surtout avec le nouveau coach Mike Brown qui aime beaucoup plus les rotations que son prédécesseur. On rappelle un prédécesseur qui a fait évoluer la franchise tous les ans et qui a été viré. À mon avis, il avait un peu trop de résultats pour New York. Enfin, Cleveland annonce l'avenue de Lonzo Ball pour anticiper certainement les blessures de Mitchell ou de Garland.
Tu prends Lonzo Ball derrière. Ah, ça, c'est pas mal. Ça. Bah, tu remplaces une ambulance.
Oui, mais peut-être ils vont se blesser à tour de rôle. Allez, on y va sur les pronos de la saison. Ah bon, il y a un grand favori, hein, comme l'année dernière, sur la saison régulière. On parle bien de saison régulière, hein. Hurlez pas. Donc en favori, moi je mets Cleveland. Je pense que Cleveland va marcher sur la conférence Est en saison régulière.
Moi aussi pareil. Cleveland aussi.
Déjà d'une,
pas photo, je pense.
L'effectif n'a pas bougé, le coaching staff non plus, avec un peu de défense complémentaire à la suite de l'arrivée de Larry Nance Jr., qui est quand même une poutre en défense et une bûche le mec. Enfin lui c'est un très très bon défenseur. Principal problème, comme je l'ai dit avant, sera de gérer le physique de la base arrière, parce que ça peut être deux joueurs qui sont stratosphériques, mais alors ils sont sujets à blessures
trop
souvent. Et j'espère qu'ils ont donné à manger beaucoup plus pendant cette trêve à l'intérieur. Bah, Mobley puis à Jarrett Allen, parce que en play-off. Alors autant en saison régulière ça passe, en play-off ça passe plus.
Il est en crise d'hypoglycémie.
Ouais. Ah mais je pense, mais j'espère qu'ils leur ont donné de la viande. Ouais. Je m'excuse à ceux qui mangent pas de viande, mais eux il faut leur en donner. Ok, après les postes 2 à 4 pour avoir l'avantage du terrain. Alors moi j'ai mis New York, je pense qu'il va arriver en 2.
Toi ? Pareil. Pour l'instant, c'est pas dur. Normalement, la tête, tout le monde là.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Orlando, je les ai mis en 3.
Ouais. Pareil.
Voilà. Et j'ai mis Détroit en 4, pareil.
Ah non. Non, moi, j'ai mis Atlanta en 4.
Ah non. Oh, bah,
alors, moi, je les ai mis en 5, Atlanta, mais je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je pense que. Jalen Johnson va revenir. Ça, c'est un super joueur. Il a été blessé quand même une grosse partie de la saison dernière. Mais donner les clés du camion à Trae Young, ok. Mais lui, les filer à Porzingis, c'est pour moi, c'est, je suis désolé. Il va jouer 40 matchs, Porzingis. On sait très bien qu'il sera blessé au moment où ce sera important. Je ne crois pas du tout au projet des Hawks. Mais je les ai mis 5e quand même. Voilà.
Bon, moi, j'ai mis que New York. Pourquoi New York d'abord ? Parce qu'il reste avec le même effectif auquel se rajoute Jordan Clarkson, qui va pouvoir ramener beaucoup de points pour faire souffler les arrières.
Et Malcolm Brogdon aussi.
Aussi. Ouais. Et Gershon va donner une rotation complémentaire à l'intérieur sur lequel ils étaient quand même assez faibles. Et Robinson, il est bien gentil, mais...
Bah, offensivement, il pèse pas, mais
bah, non. Bah,
il apporte.
Par contre, en défense, c'est une grosse équipe défensive.
Ah, ils ont un beau potentiel.
Ensuite, Orlando, comme je l'ai déjà dit, avec l'arrivée de Bane, ça complète une équipe qui était super agréable à jouer. Je pense que ça fait partie du top 3 de l'année dernière, qui étaient les équipes les plus agréables à voir jouer.
Ouais, moi, Orlando, je suis pas fan, objectivement. Mais je trouve que...
C'est pas chasse de la franchise ou de la manière dont ils jouent?
Non, même de la manière dont ils jouent. Ah. Ça,
Écoute bien le 5, hein. C'est Suggs, Bane, Banchero, Wagner, Isaac.
Ouais, alors, je sais. Oh. Le problème pour moi, c'est t'as tout résumé, c'est le 5. Sur le banc, il n'y a rien. Sur le banc, il n'y a pas de profondeur.
Il n'y a pas de rotation.
Donc, ça va coincer. S'il y a un mec qui se blesse...
C'est ça, c'est toujours pareil. C'est les blessures. L'année dernière, ça a été leur problème. Hein.
Par contre, au complet...
Banchero blessé, Wagner blessé...
Ils ont un jeu très exigeant.
Mais ils ont tenu la route sans les deux, quand même. Hein. Donc,
Ensuite, j'ai mis Détroit. Bon, j'avais mis entre parenthèses meilleure équipe all-time, mais vous n'allez pas être d'accord.
C'est reparti.
Ils enregistrent les départs de beaucoup de shooters, mais bon, ils ont récupéré Duncan Robinson de Miami. Le mec qui doit jouer partout sauf à Détroit, parce qu'il n'a pas les capacités mentales de jouer dans cette équipe.
Bah non.
Autour de leur star, Kate Cunningham, l'effectif est robuste et sérieux avec un staff toujours en place. Certainement l'une des franchises qui travaille le mieux. Le roster est très solide. Vous avez Cunningham, Ivy, Thompson, Harris et Duren en 5. Et en remplaçant, il y a Levert, Robinson, Stewart et Paul Reed. Donc ils ont des backups en ligne arrière. Et à l'intérieur.
Et Ivy revient.
Oui, oui, je l'ai dit.
Une blessure, une blessure qui était...
Ouais, c'est un mec qui vaut 20, qui vaut 20 points par match. Hein. Non, non, c'est... Ça s'est bien complété. Ensuite, pour les 4 places restantes, j'ai quand même mis... Alors, il y a deux équipes qui se ressemblent, c'est Indiana et Boston. Le début de saison va être un peu emprunté parce qu'ils ont perdu tous les deux leurs stars, leurs stars meneurs. Bah, t'as le droit de pas être d'accord, mais t'as le droit d'avoir...
Pas d'accord.
Ah, tu vas avoir mis Philadelphie, non ?
Non. Alors j'ai mis Miami aussi.
C'est cadeau.
Alors, Indiana et Boston, on en a parlé. Enfin, je trouve qu'ils sont décimés à l'intérieur. Ils peuvent pas tenir la distance avec son...
Moi, je les ai même pas mis dans le top 10.
Ah bon ?
Moi, Boston, ils sont 9.
Ah, Indiana, ils ont pas...
Moi, Boston, sont 7, mais en 6, j'ai mis Milwaukee. Alors, j'étais plus gourmand que vous.
Moi, j'ai mis Miami en 6.
Alors, ça arrive après.
Miami, ils arrivent après. Ouais. Ouais.
Quitte à faire des doublettes d'équipes qui se ressemblent, j'ai mis Milwaukee et Philadelphie en 7 et en 8. Je les mets parce qu'ils sont dépendants de leur énorme star. Mais ils sont très mal accompagnés, ces deux stars. Moi, j'ai une volonté personnelle de voir Milwaukee parce que j'adore Giannis et il mériterait tellement d'être dans une franchise qui joue le titre. Après, pour Phila, je ne vois pas de miracle, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'Embiid va faire une saison complète. On ne sait pas.
On a du mal à y croire maintenant.
Okay, ouais.
Et en 9 et en 10, évidemment, j'ai mis Miami et les Bulls qui seront en premier tour de play-in avec une victoire de Miami, mon Pascal.
Oui, mais ok, d'accord. Okay, ça devrait me satisfaire. Miami, je les vois quand même un peu mieux parce qu'ils auront une vraie profondeur de banc cette année. L'équipe effectif est un peu plus équilibrée et je pense qu'il n'y aura pas le dossier Butler
qui est venu la franchise.
Donc moi, je pense que...
Mais en fin de play-in, moi, je les vois.
Ouais, mais Norman Powell, il vient apporter quelque chose en plus. Alors, ça commence mal, Hero s'est déjà blessé. Mais je pense que Miami, c'est vraiment c'est une des équipes pour lesquelles on ne sait pas trop sur quoi. Je suis sûr qu'ils peuvent surprendre, dans le sens positif, comme prouver qu'il n'y a pas eu la révolution qu'il aurait dû avoir, pas suffisamment de...
Mais ils n'en ont pas voulu, de la révolution.
Bah, ils
sinon, Tyler Hero et Adebayo, ils seraient partis.
Bah, moi, je pense qu'il aurait fallu appuyer sur reset. Ils ne l'ont pas fait, ils ne le font jamais à Miami. Mais ceci dit, je trouve que leur groupe, il est très complet à l'Est. Et pour revenir sur Boston, très rapidement quand même, Boston, je trouve que Tatum va possiblement revenir. Mais si au Mercato, pendant la trade deadline, il ne faut pas venir des intérieurs, comme Indiana...
Mais tu sais que Tatum, ils vont être obligés de le faire jouer poste 4. Hein.
Ah bah oui.
Parce qu'il n'y a personne.
C'est une catastrophe.
Ah mais oui,
je sais pas comment tu peux programmer une saison comme ça en disant je vais.
Peut-être justement, c'est peut-être volontaire de leur part aussi. Je pense qu'il y a un moment.
Disons que le changement de propriétaire a dû jouer aussi. Il est peut-être capable de mettre l'argent comme ça. C'est. Alors vous croyez en Hawks. Moi, je les ai même pas mis dans les 10. Hein. Et moi, je pense que Porzingis, il va se péter.
Je vais te dire franchement, je les ai mis en 5 Atlanta, mais vraiment sans y croire une seconde.
Mis
parce que je disais des trucs en disant ouais putain Atlanta c'est bien et tout ça. Puis je me dis que Jalen Johnson s'il tient le coup ça voilà, il leur manquait énormément l'année dernière, mais moi pareil, j'y crois pas Vraiment, il faut qu'on se dépêche.
Au moins, on est d'accord sur ceux qui, ouais. ceux et, qui passeront pas.
Et pour Brooklyn, le reste, on, donc j'ai pas parlé de Washington, Brooklyn.
Voilà, on est d'accord là-dessus.
Faut perdre de temps.
Hein. Qui va finir dernier?
Non, je vous annonce Brooklyn saison all-time dans les fins fonds de la NBA. Je pense
moi aussi, j'ai mis Brooklyn dernier. Non,
moi, ouais. j'ai mis Washington.
j'ai mis Brooklyn avec moins de 18 victoires.
Ok. Comme on est un peu pressé, on passe directement sur la rubrique suivante.
Et voilà, j'ai encore taffé pour rien.
Il faut chronométrer.
On va bosser ça, t'inquiète.
Ouais, on va bosser, ouais.
Bon, j'allais faire un super jingle, mais je l'ai oublié. Vous remarquerez dans cette émission qu'il y a un peu d'approximation technique.
C'est la première, allez.
La première, il faut se remettre.
On enchaîne tranquillement, il n'y a pas de
mais on enchaîne sur l'art du style. Aujourd'hui, dans cette rubrique, l'art du basket, le basket est un art plutôt, on évoquera un secteur du jeu en évoquant notamment ses illustres représentants. Et aujourd'hui, j'ai repris un petit peu le titre de Donjons et Dragons, là, le film « L'honneur des voleurs ». Parce qu'on va parler des gens, de ces gens qui interceptent. Alors l'année dernière, pour résumer quand même, il y a eu quelque chose de notable qui s'est produit en NBA. Dyson Daniels s'est illustré en devenant le meilleur défenseur de la Ligue. Ce qui est déjà une prouesse quand on considère que cette récompense en général honore plus volontiers les pivots, les grands, les contreurs, etc., les rondeurs.
La blessure de Wemby l'a bien aidé.
Aussi, voilà. Parce que c'était ce qui m'était promis. Mais Dédé a quand même tourné à plus de 3 steals de moyenne. Une moyenne qui n'avait pas été vue depuis l'époque où Mehdi jouait avec ses Duplo et Baptiste ses G.I. Joe. Et toi, Buffa, la poupée. Non.
C'est tellement bas de gamme comme blague. Hein. Mais vas-y, enchaîne. Hein,
vas-y. Oh, putain. Donc, on n'avait pas vu ça depuis la saison 90-91 avec le grand Alvin Robertson, triple lauréat quand même du titre de meilleur intercepteur de la Ligue. Alors, je vous propose de revenir aujourd'hui sur ces grands détrousseurs qui ont laissé leurs empreintes sur les meilleurs coffres forts de la Ligue. Voilà. Le style, ou interception en français, cet art subtil qui a deux écoles. Messieurs, pour vous, hein, alors je vous pose la question du coup, qui est quand même la problématique centrale. Est-ce que être un bon intercepteur, ça veut dire être un bon défenseur?
Moi, je pense que c'est une des qualités d'un bon défenseur. Par contre, ça ne peut pas être la seule d'un bon défenseur. Parce qu'on dit toujours interception ratée, interception payée. Donc jouer que les interceptions, ça coûte trop de points à une équipe. Mais après, tu as ceux qui ont l'art de se mettre toujours sur les lignes de passe et d'aller... pour éviter de défendre, d'aller gratter un ballon. Non, je pense qu'il y a eu des grands défenseurs qui étaient des grands intercepteurs, mais ce n'était pas leur qualité première. Ils sont devenus grands intercepteurs, mais avant, c'était des grands défenseurs.
D'accord, Mehdi Baptiste, pardon, un avis sur la question.
Ce qu'on disait tout à l'heure avec Mehdi, moi j'ai toujours eu à l'état d'esprit qu'un intercepteur, c'est entre guillemets un tricheur en défense, parce que c'est potentiellement c'est celui qui va se... Il va mettre l'équipe dans la merde. Il va se jeter ouais. Et tu te retrouves à 4 à défendre. Ouais. Mais par contre, celui qui sait bien le faire derrière ses contre-attaques, c'est 2 points. Voilà, c'est une force d'attaque énorme en fait. Parce qu'il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Comme tu dis, l'année dernière, on l'a bien vu, le mec il est quand même presque au double de celui qui est derrière lui, qui était chez quand même. Donc, quand tu
3
sais
c'est énorme, hein, plus de 3 c'est vraiment...
Ah non mais quand tu sais bien le faire, par contre, ouais, c'est vraiment une force. En tant que défenseur, je ne suis pas sûr que ça soit une arme de défense, mais...
Et Buffa, toi, t'en penses quoi?
Bah, je rejoins un peu l'idée de ces deux messieurs. Effectivement, c'est une qualité parmi le fait de défendre. Mais effectivement, voilà, t'as bien résumé, Baptiste. En vrai, si tu te foires, t'es sûr que ça met tout le monde en péril, donc...
Alors après, moi, je tiens à dire quand même qu'il y a deux écoles dans l'interception. T'as ceux qui sont un peu des pickpockets, c'est-à-dire qui vont
chercher la balle. Moi, je pense à ceux-là, voilà. Principalement.
Gary Payton, par exemple, je pense à Gary Payton. Mais je veux dire, le gars, il allait chercher la balle dans les mains. Dès que tu vois, c'était pas, ceux qui coupaient pas les lignes de passe.
Il ne pas couper la ligne de passe.
Ah oui, d'accord, pardon.
Et il y a, effectivement, vous en avez parlé, tu as bien dit.
Je pense plus à ceux-là.
Ceux qui coupent les lignes de passe, Iverson, par exemple, était comme ça. Harden comme ça, et Harden, on sait très bien que c'est pas un bon défenseur.
Tu sais bien, là, tu apportes bien
ce qu'il ne veut pas défendre.
Tu apportes du grain à mon gars.
Ah bah, voilà.
Harden et défenseur, ça va pas avec.
Ça va pas avec, non.
Et c'est pareil, il y a aussi un paramètre dans cette stat qui n'apparaît pas, et qui apparaît de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la deflagration. Vous voyez ce que c'est? En fait, c'est les balles déviées. Ah oui. En fait, tu as des joueurs qui sont spécialistes de dévier les trajectoires des balles, par exemple.
Les mains actives.
Caleb Martin, par exemple, il est à Miami, je crois que c'est un des joueurs qui avait le plus de deflagration à son palme. Enfin, ouais. En tout cas, dans son.
Est-ce que c'est pas encore un truc, c'est pas encore une autre compétence, on va dire, quoi. Parce que des balles déviées, c'est, tu récupères pas forcément le ballon, c'est non. Plus tu vas casser le rythme.
Exactement. Mais ça, du coup, ça n'a pas
le choix. C'est plus en effet que, on va dire, chaparder la balle, hein, on va dire ça comme
oui,
ça.
C'est ça, chaparder. Ah,
effectivement, derrière, c'est deux points pour toi, quoi. Enfin,
c'est, après, je pense, c'est pas la même chose. L'interception la plus connue du monde du basket, c'est celle de Jordan sur Karl Malone au match 6 contre Utah lors de son dernier match. Jordan, avant qu'il aille planter les deux points sans la faute, bien sûr.
Ah bah tiens, justement, pour on teste votre culture générale rapidement. Là, pour vous savez quel joueur a le plus grand nombre de titres de meilleur intercepteur de l'année?
La question à 1000 points, mon gars.
Payton, non?
Eh ben non.
Jordan Iverson, non?
Ah bon, Chris Paul? Chris Paul avec 6 fois.
C'est, ok.
Il écrase la rubrique.
Ah d'accord.
Avec 6 fois. Chris Paul a toujours été un peu décrit aussi en disant que c'était pas toujours un très grand défenseur qui se faisait poster.
Mais il est très intelligent.
Mais très intelligent. Et ensuite, on a Iverson.
Ah oui, Iverson,
tu vois.
Michael Jordan, je sais pas qui. Je vois pas.
Je connais pas.
Enfin, je connais pas. Non.
Michel, je crois que c'est.
Ensuite, on a Alvin Robertson et Michael Ray Richardson, avec trois équipes différentes. Alvin Robertson, on en a parlé, on a plus de 3 styles de moyenne. Puis après, c'est un peu plus secondaire, mais des John Stockton, par exemple, étaient des très bons intercepteurs. Hein. Mookie Blaylock, je sais pas si vous avez connu.
Mais de toute façon, il y a quand même un truc, c'est que dès que tu tombes sur des joueurs intelligents ou qui ont un QI basket, ce sera des bons intercepteurs, parce qu'ils savent se placer sur les lignes de passe. Et Iverson, c'était le roi pour ça. Il était tout le temps sur les lignes de passe. Que Michael Jordan était plus à aller chercher les interceptions dans les mains, sur les dribbles et autres.
D'où la réputation de Jordan, enfin, qui est considéré comme un immense défenseur, voire un des plus grands défenseurs.
C'est une honte d'avoir eu qu'un titre de meilleur défenseur.
Ah oui, d'accord.
De toute façon. Bon, après, on ne pouvait pas toujours tout lui donner.
Un petit hommage sur ceux qui n'ont pas forcément... Alors, Pippen était un énorme, très bon intercepteur.
Ouais, c'est fou. Hein,
mais Pippen,
il n'aura jamais eu la gloire qu'il devrait avoir, ce mec-là.
Mais c'est vrai. C'est dingue. Je voulais le réhabiliter encore.
Un joueur de l'ombre.
Pippen était un défenseur incroyable et un intercepteur hors pair. Et pareil pour Butler. Jimmy Butler est un super défenseur qui intercepte, qui va chercher les ballons, qui va les piquer en plus au moment où c'est important. Donc voilà.
J'aurais pas mis une pièce sur Butler, mais vas-y. Ok.
Ah bon, je te veux peut-être.
Parce que tu l'aimes bien, on sait, c'est bon.
C'est
voilà.
Pour ça. Bon, il m'a fait beaucoup de mal, tu sais. Il m'a fait beaucoup souffrir.
Sur la fin, mais comme d'habitude. Hein.
Bon, c'est l'heure de notre buzzer beater, messieurs.
Yes. On y va.
Ouais, t'as le jingle cette fois-ci,
c'est vrai. Ouais, je vais regarder si j'ai ça en magasin.
Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three.
Et oui, le buzzer beater, aujourd'hui, on va parler des Frenchies. Est-ce que, on peut poser la question, est-ce qu'il existe un Wembanyama et les autres en NBA? Aujourd'hui, vous savez, Wembanyama est grand. Il est même plus grand que
ce grandi, apparemment.
Il a grandi.
Il est parti chez Shaolin, il a envie plus grand, le mec.
Voilà, c'est assez fou. Bon, tout le monde le sait. Son ascension semble aussi spectaculaire qu'inéluctable, au point que dans un récent sondage, il est considéré comme le joueur qui deviendra le plus dominant en NBA à l'horizon 2030. Demain, quoi. Mais si le talent et le phénomène le placent dans une catégorie hors d'atteinte pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'il en est alors, déjà, il y a les garanties physiques pour la suite de sa carrière. Il nous a quand même déjà bien fait peur. Et voilà.
Ouais, bah attends, c'est pas...
une thrombose, c'est quand même pas...
Pas mousse, hein, voilà.
Mais en tout cas, ses stats, ses performances ont été mises à mal à mi-parcours sur sa deuxième saison. Rappelons qu'il n'a joué que 46 matchs la saison dernière. Mais derrière l'alien... Que penser d'un contingent français qui lutte avec les Canadiens pour le titre de nation la plus représentée hormis les États-Unis? Qu'espérer de nos jeunes, de nos vétérans? C'est parti, on voulait commencer par qui? Yabou, on en a parlé un peu tout à l'heure.
Après, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans des équipes capables d'aller loin. Alors, il y a Yabou à New York, puis si tu veux, on peut mettre Isaché aux Hawks, mais après le reste...
T'as Gobert, ouais.
Gobert est... Sur la fin, Rudy. Oui. Et sur la fin.
Ça sent le sapin pour Rudy.
Ouais, franchement.
Ouais, c'est vrai. C'est tu vas adapter à la NBA d'aujourd'hui.
C'est compliqué.
Je sais pas. Après, pour revenir sur Wembanyama, il a dit qu'il s'était jamais autant entraîné. Il a quand même eu des coachs là pendant l'intersaison. Je pense qu'il a eu pas mal de techniques. Parce qu'il s'est quand même à entraîner avec Olajuwon, c'est quand même incroyable.
On n'est pas non plus.
On n'est pas.
Ah bon? C'est bien dommage.
Un certain Hakim. Ouais. Hakim The Dream, un truc comme ça, apparemment. Je ne sais pas trop.
Avant ça, il a fait beaucoup de musculation. Il est revenu, apparemment, il est totalement guéri. Donc ça, c'est quand même un point qui est quand même incroyable. Parce qu'il y en a quand même, tu parlais de thrombose, mais il y en a quand même qui ont arrêté leur carrière sur ça.
Oui, bien sûr.
Donc je pense, mais après au NBA, ce qu'il faut viser avec les Spurs, c'est aller en play-off. Voilà, le seul objectif qu'il a, c'est d'aller en play-off, d'aller goûter au play-off. Il les a jamais joués.
Sincèrement, aujourd'hui,
je vois pas comment ils peuvent pas y aller.
Exactement. Bah, moi, les Spurs,
on la fera dans 15 jours, la conférence
ouais,
West.
Je vois, pas comment ils peuvent ne pas y
aller. Bon, après, c'est l'Ouest, hein. C'est Wild West, comme on dit, hein, mais c'est très compliqué.
C'est quand même plus corsé, voilà, c'est ça. L'Ouest, c'est plus corsé. Donc, mais bon, je pense qu'on dit,
ils vont l'équipe. Il va être bien entouré.
Mais moi, je les vois plus entre 8-10, quoi. Je les vois pas au-dessus, moi.
Ouais, au-dessus, ça va être compliqué quand même.
Oui, mais bon, déjà, s'il passe. Mais...
Je pense que justement, sa blessure, ça l'a aidé, entre guillemets, parce qu'il a pu se préparer à la NBA pendant 6 mois, 8 mois, quasiment. Chose qu'il n'avait pas faite, hein, parce que quand tu arrives directement au championnat de France et direct à la NBA,
il avait enchaîné.
Compliqué aussi. Moi, je pense que ça grosse saison de Wayne Bichon.
C'est lui fait quel âge, là.
Il a 22.
Ouais, franchement, on se pose la question s'il va être balèze plus tard, mais c'est que le début. Hein. Ouais.
Après,
ça qu'on oublie. Hein.
Après, le Français qui a la meilleure franchise, c'est Gershon.
Franchement,
Gershon avec New York, c'est celui qui peut aller le plus loin en playoff avec un gros rôle.
Moi, je partage pas ton avis en fait. Ah. Moi, je t'assure. Moi, je.
C'est relou. Hein.
Non, parce que pour moi, Gershon Yabusele, c'est un titulaire. C'est un titulaire pour moi en NBA. Vu ce qu'il a montré, vu ce qu'il est capable d'apporter.
Mais je te parle de celui qui est dans la meilleure équipe pour aller plus loin en play-off.
Dans ce sens-là, oui.
Je pense que lui, il est capable d'aller en demi-finale de conf, voire en finale de conf.
Ouais. Moi, je te dis, on a fait le classement tout à l'heure, on a dit Cleveland en premier, New York en deuxième.
Ouais.
Mais moi, je vois New York taper Cleveland en finale de conf. Hein.
Ça peut se faire, oui.
Cleveland, je n'y crois pas à ce projet. De toute façon, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme chaque année, ils ont regardé Donovan Mitchell faire son show, arriver au mois d'avril, etc. Ça n'a pas porté ses fruits. Il y avait des blessés, d'accord. Mais toutes les équipes avaient des blessés. Qu'est-ce qu'on devrait dire sur Boston, sur les autres équipes Mais bon, en tout cas, si on ressort sur les Français, est-ce qu'on peut passer à Risacher?
Faut qu'il confirme cette année. Je me vois l'année dernière dire il faut lui laisser un peu de temps.
Là, il peut pas.
Là, il a plus de temps. Là, faut montrer.
Ce qu'il a fait au mois de mars l'année dernière. Faut qu'il arrive à le faire sur une saison complète.
C'est ça, voilà.
C'est juste ça. Il faut qu'il apporte ses 15 points.
Ça soit dans la durée, ça soit pas du sur un match ou deux, un peu plus, mais qu'il rentre dans la vraie rotation, peut-être même en tant que titulaire. À Atlanta, il y a de la place quand même.
Numéro 1 draft.
Au poste 3,
la première saison est toujours compliquée, mais bon, maintenant, la deuxième saison, je pense que oui, il faut qu'il soit titulaire.
Il doit passer le cap.
Alors justement, en parlant de gars qui doivent passer un cap aussi, alors je pense aux deux Frenchies de Washington qui ont des jeunes pousses. Alors, quand tu es dans un désert, tu as une belle plante, une heure de venir, etc., c'est quand même pas super de trouver les meilleures conditions pour se développer. Le sol d'ici est vraiment stérile, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils vont pas passer à côté de leur développement qu'ils pourraient avoir dans une autre franchise parce qu'ils sont entourés par des peintres?
Koulibaly, il arrive dans sa dernière saison, là, non? Donc là, à la fin de l'année, il faut absolument qu'il aille signer un contrat, et surtout pas à Washington.
Non, mais Washington ne veut pas le lâcher, je crois.
Ah, mais il n'y arrivera pas à grimper. Hein.
T'as pas l'impression qu'il est en fait finalement plus limité que ce qu'on pensait
Soit c'est ça, soit en effet, il est déjà à son prime.
Moi, je pense qu'il est mal coaché, ce mec-là.
Mais soit en effet, il n'est pas dans la bonne.
En tout cas, avec l'équipe de France, on ne peut pas dire qu'il est marqué des esprits. Hein,
C'est ça.
Pas assez, c'est vrai.
L'équipe par de contre, France, il n'a pas marqué.
Sarr peut-être un peu plus.
Sarr
peut-être un peu plus.
Il aura certainement plus que
Koulibaly de développement. Et Sarr, il peut finir meilleur rebondeur de Washington.
Est-ce que c'est pas une question de...
Et prendre le poste de titulaire.
Ah oui.
Moi, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Hein, ouais. Après, les autres, y a toujours Rudy, notre Picard qu'on aime bien.
Ouais, Nico Batum, ancien. Voilà. Bon, on ne va pas parler trop des rookies, parce que les rookies sont des rookies. Par contre, il y en a un aussi, pareil, qui pour l'instant est un gros bust. Je suis désolé, hein. C'est Salin, Tidjane Salin, c'est pareil.
C'est numéro 6 ou choix 7. Il est tombé dans une équipe.
Ouais, enfin, il a fait que shooter à 3 points.
Il va falloir
aussi qu'il sorte un peu les doigts, entre guillemets, qu'il propose autre chose dans le basket.
C'est quoi ton rôle, c'est de shooter à 3 points? Un shooter à 3 points, quand ça ne met pas dedans, tu ne sers pas à grand-chose.
Charlotte, il y a embouteillage de mecs qui shootent à Charlotte. Ils veulent tous shooter. De toute façon, ils ne veulent pas jouer au basket, ils veulent shooter. Donc, est-ce que c'est le meilleur endroit? Diabaté a peut-être plus de chance, d'ailleurs.
Bien sûr.
Salin de.
C'est royaume. Les aveugles, hein, les borgnes sont rois, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Hein.
Ça, c'est une belle phrase pour terminer.
C'est beau. Je pensais pas, de toute façon.
J'adore quand on fait une touche de culture comme ça.
Merci.
Messieurs, Il est l'heure de se dire au revoir.
Au revoir de l'antenne, effectivement.
Ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'était un vrai plaisir. Grosse dédicace à toute la fanbase monstrueuse voilà, qui nous écoute. En tout cas, on fait des bisous à tout le monde. Et puis, on vous dit rendez-vous...
Dans deux semaines.
Dans deux semaines, déjà, avec la nouvelle formule de Money Time. Meditime.
Au showtime. Yeah. Meditime.
Salut les potos.
Ciao tout le monde.
Ciao. Salut.